Cette chronique en droit du travail vous est présentée par Coderre Avocats, vos alliés juridiques en relations de travail et en gestion des ressources humaines. Visitez coderreavocats.com.
Jusqu'à 17h, vous écoutez L'Outaouais maintenant avec Louis-Philippe Brûlé, votre source pour rester branché au 104.7 Outaouais.
OK, la chronique en droit du travail. On me dit qu'il s'est couché tard, mais qu'il est quand même relativement en forme cet après-midi. Maître Philippe Coderre, en bout de ligne. Salut, Philippe.
Salut, LP, ça va bien?
Oui, est-ce que Donald Trump t'a appelé pour contester l'élection ou...
Non, mais j'ai vu ça en direct cette nuit, par exemple. c'est incroyable, hein, ce qui se passe aux États-Unis.
Ah, c'est surréel.
On dirait un film de science-fiction. Oui, on dirait de la science-fiction.
Effectivement. Mais ça va faire un bon film dans une couple d'années, ça c'est sûr et certain. Entre-temps, on va parler de contrat de travail cet après-midi. Première question, Philippe, c'est quoi les conséquences de n'avoir qu'une entente verbale?
Mais d'abord, il faut comprendre que l'entente verbale est tout à fait légale. C'est permis de conclure ça. Les conséquences légales, c'est surtout une question de preuve. Parce qu'évidemment, en droit du travail, on en parle souvent, il y a des lois d'ordre public qui viennent dire que, par exemple, la loi, c'est normes du travail. Il y a des règles minimales qui doivent être donné aux employés. Donc, c'est évident que si vous n'avez pas de contrat de travail écrit, ces lois-là vont s'appliquer. En revanche, toutes les ententes verbales que vous pourriez avoir avec votre employeur et pour lesquelles il n'y aurait pas de commencement de preuve. Un commencement de preuve, c'est par exemple, supposons que vous avez une paye de 2 000 $ à chaque 2 semaines. Bon, on peut faire la preuve avec ça que votre salaire, c'est 2 000 $ aux 2 semaines, même s'il n'y a pas de contrat de travail écrit. Mais en l'absence de ça, supposons que c'est l'employeur qui dit « Ah, dans 2 ans, tu vas avoir droit à des bonis » et que j'ai pas de trace écrite de ça, ben l'employé, malheureusement, va avoir bien de la misère à faire la preuve de ce boni-là éventuellement.
Ben oui,
alors,
ben
c'est
oui.
Vraiment ça, le risque. Là.
Donc, s'il n'y a pas de contrat formel, peut-être juste y demander « Peux-tu me mettre ça par écrit, me l'envoyer en texto, en courriel, puis on garde ça dans nos archives? »
Exact. Et en l'absence d'écrit, c'est évident que tout ce qui n'est pas convenu, l'employeur, généralement, il a un grand droit de gérance également. Donc, c'est important pour l'employé de peut-être avoir une certaine balise de base de signer.
Au niveau de la forme, Philippe, d'un contrat, là, on voit souvent là, des contrats de 15, 20, 25 pages. C'est compliqué en tabarouette, là.
Oui, ça devrait pas être compliqué comme ça. Puis je peux vous dire, en pratique, là, moi, je représente de plus en plus des entreprises, même de la région de Montréal, qui veulent que je révise leur contrat de travail pour les simplifier. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que d'abord, ça mine la confiance avec les employés. C'est ce que plusieurs employeurs trouvent. Quand tu as un contrat de 15 pages, on dirait quasiment que tu t'en vas acheter une maison. Pourtant, un nouveau contrat de travail, ça devrait être quelque chose de positif. Et dans un deuxième temps, au Québec, comme je disais tantôt, il y a des lois d'ordre public. Alors, quand même que vous avez un contrat de 30 pages, si vous ne respectez pas ces lois d'ordre public-là, il y a des fortes possibilités qu'une grosse partie de ces pages-là soit inutile.
Ben oui.
Exactement, que ce soit la décoration.
Ça n'a même pas la valeur du papier sur lequel c'est écrit, là.
Exact, c'est juste l'avocat qui a fait de l'argent dans ce temps-là.
Oui, c'est
alors,
ça.
Je pense pas que c'est vraiment important d'avoir des longs contrats. Puis ça démontre un petit peu un manque de confiance.
Mais il y a quand même certaines clauses essentielles qu'on devrait habituellement retrouver dans un contrat de travail.
Oui, certainement. Donc, la durée du contrat, ça, c'est primordial. Est-ce que c'est un contrat à durée déterminée ou indéterminée? Ça, c'est la première chose qu'il devrait y avoir. Est-ce que vous avez une période de probation? Parce que c'est conforme à avoir une période de probation en droit du travail québécois. Quelle est la rémunération? Quels sont les congés ou avantages sociaux que l'employé va avoir? Ça, c'est quelque chose qui est assez pertinent. Quelles sont les obligations des parties? Quelles clauses restrictives vont s'appliquer? Puis finalement, ben, c'est quoi le préavis de démission que vous voulez en tant qu'employeur si jamais l'employé quitte son emploi?
Oui. Là, tu viens de me parler de démission, mais tu ne m'as pas parlé de congédiement?
Ben, en matière de congédiement, c'est qu'on parle, encore une fois, ça revient aux lois d'ordre public. Quand bien même que je dis dans le contrat que si vous faites tel geste, je vous congédie automatiquement, ça va peut-être avoir une force probante en cours pour démontrer que l'employé était avisé que c'était important de ne pas faire cette conduite-là. Mais le juge n'est pas lié par ce contrat-là. Lui va regarder l'ensemble des faits, puis il va se dire, est-ce que ça valait un congédiement? Puis la deuxième chose, c'est qu'en matière d'indemnité de départ, c'est très risqué pour un employeur de mettre des préavis prédéterminés, parce que ça va toujours être à l'avantage de l'employé. Si le préavis est trop faible, le tribunal peut le rehausser. Donc, ton contrat vaut rien. Et si le préavis est trop élevé, ben, t'es lié en tant qu'employeur avec ce préavis-là. Donc, si vous dites, je donne en tout temps, par exemple, 6 mois, si vous quittez ou si je mets fin à votre emploi sans cause juste suffisante, et que l'employé reste là pour 1 an seulement, c'est un préavis qui est beaucoup trop important par rapport à ce qu'on donne habituellement. Alors, l'important là-dessus, c'est simplement de dire que si on met fin au contrat, l'employeur peut le faire, puis on va donner les indemnités prévues par la loi sur les normes du travail, les lois du travail, à moins de faute grave. Quelque chose d'aussi simple que ça.
Bon, révision salariale, si c'est pas prévu, si c'est pas écrit dans le contrat, comment ça fonctionne, Philippe?
Si c'est pas prévu, ça fait partie du droit de gérance de l'employeur. Donc, contrairement à ce que certains employés pensent, on n'a pas un droit à une révision salariale annuelle. Évidemment, c'est une bonne pratique pour les employeurs de le faire s'ils veulent garder leurs employés. Mais si c'est muet dans le contrat, effectivement, c'est à la discrétion de l'employeur. Donc, il y a bien des employés qui vont vouloir ajouter un élément par rapport à ça dans leur contrat de travail écrit.
Autre élément qui touche de plus en plus de monde, le télétravail?
Effectivement, le lieu de travail de plus en plus, je vous aurais peut-être pas dit ça il y a 8 mois de cela, mais maintenant, je pense que c'est une clause qui doit faire partie des contrats de travail, c'est-à-dire c'est quoi votre lieu de travail? Parce qu'un lieu de travail, c'est une condition de travail. Et si vous décidez que l'employé doit faire une partie du travail en télétravail, une partie au bureau, c'est important de le préciser parce qu'une modification en cours de contrat pourrait être considérée comme un congédiement déguisé, une modification substantielle des conditions de travail.
Oui. Dans certains cas, on pourrait même ajouter l'utilisation de la voiture.
Exactement. Donc, la question des dépenses, qui assume quoi, qu'est-ce que l'employeur fournit, où vous devez travailler, c'est important de le prévoir à l'avance au début ou minimalement de faire référence aux politiques de l'entreprise qui, elles, peuvent être modifiées de temps à autre et communiquer à l'employé. Donc ça, c'est une tactique qu'on utilise beaucoup dans les contrats de travail très légers. C'est-à-dire que le contrat va faire 4-5 pages, mais on va faire référence à des annexes qui sont beaucoup plus facilement modifiables. Et à ce moment-là, bien, ça permet une certaine flexibilité aux parties pour, disons, venir changer la situation d'emploi en cours d'emploi.
Autre élément qui est vraiment d'actualité là, depuis un bout de temps, c'est le comportement, là, que ce soit via les médias sociaux, le harcèlement, etc., etc. Est-ce que les employeurs devraient mettre une liste précise des comportements qu'ils s'attendent de la part de l'employé?
C'est pas nécessaire, mais je crois que ça peut être utile pour une question de force probante, comme je disais tantôt. Quand c'est écrit dans le contrat que, par exemple, en cas d'harcèlement, vous êtes congédié automatiquement, le juge, comme je disais tantôt, ne sera pas lié par cette clause-là. En revanche, l'employeur peut dire, au moment de signer le contrat, là, l'employé était avisé à quel point c'était important pour nous, le harcèlement psychologique, de prévenir cela. Donc, voici la preuve. Donc, ça peut être une façon de le faire. Autrement, moi, ce que je mets dans les contrats, généralement, c'est simplement les exigences requises, minimales, pour avoir l'emploi. Par exemple, si ça vous prend un permis de conduire, bien, l'employé s'engage à avoir un permis de conduire en tout temps pendant la relation d'emploi. Si vous devez avoir un dossier criminel vierge, si vous êtes avocat, bien, vous devez être membre du barreau. Des choses comme ça. Quant au comportement, la jurisprudence est tellement étoffée sur ce qui est une faute grave que c'est pas nécessairement nécessaire de l'écrire dans le contrat.
Ouais, c'est pas nécessairement dans le contrat, mais plus dans une politique interne qu'on pourra acheminer à la personne une fois qu'il est à l'emploi de l'entreprise. Tu as parlé tantôt de clauses restrictives. Explique-nous ça, Philippe.
Des clauses restrictives, ça pourrait faire l'objet d'une chronique dans les prochaines semaines. Là. On parle de clauses de non-concurrence, de non-sollicitation, de confidentialité. Je vous dirais que c'est la raison pour laquelle plusieurs employés font réviser leur contrat de travail quand un employeur leur propose quelque chose. C'est ça qu'ils veulent étudier. Ces clauses-là doivent absolument être faites par écrit. Elle doit être limitée quant à la durée, le territoire et la nature des activités qu'on souhaite proscrire. Donc, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être étudié. Et je vous dirais que dans les contrats de travail, c'est souvent là qu'il y a des consultations qui sont faites.
Oui.
C'est une clause longue, fastidieuse, mais tellement importante.
Vous coûtez cher de l'heure, Philippe. Là, c'est-tu quelque chose qui va nous coûter plusieurs milliers de dollars ou c'est quand même assez simple de réviser un contrat, de faire réviser un contrat avant de le signer par un professionnel?
En ce qui me concerne, c'est rare que ça prend plus qu'une heure de travail. Là. C'est vraiment pas long. Ça vaut la peine pour les clauses restrictives, je pense, de le faire relire si vous n'êtes pas certain.
Oui.
Juste pour déterminer qu'est-ce qui est juste dans les circonstances. Puis du côté des employeurs, bien, c'est sûr que c'est un peu plus dispendieux parce qu'on parle de rédiger un contrat au complet, mais je pense que ça peut être très pertinent d'avoir un contrat qui va passer le test des tribunaux.
Oui.
Et un contrat qui ne sera pas contesté, puis que si vous l'utilisez en cours, le juge va trouver raisonnable.
Oui, c'est un peu comme faire inspecter une bagnole ou une maison avant de l'acheter. Là. C'est plus peut-être un investissement qu'une dépense. Là.
Exactement. Moi, je trouve que c'est très bénéfique personnellement, mais là, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse.
Oui, t'es en conflit d'intérêt, Philippe Coderre.
Exactement.
En terminant, quelques conseils là, pour les employeurs, mais aussi pour les employés qui nous écoutent.
Ben, simplement d'être alerte et de ne pas hésiter de confronter, pas nécessairement confronter, c'est pas le bon mot, mais de discuter avec l'employeur quand vous négociez un contrat de travail. C'est-à-dire dire à l'employeur, ben, je vais le faire réviser et apporter vos commentaires. Souvent, ce que je vois, il y a, par exemple, des cadres supérieurs qui m'appellent pour que je révise leur contrat de travail. Je leur fais mes commentaires. Et après ça, ils finissent par signer le contrat quand même parce qu'ils veulent pas s'obstiner avec l'employeur. T'sais, ils veulent la job. C'est sûr que ça sert à rien si vous faites ça. Alors, moi, je vous dirais d'être à l'aise, d'avoir une discussion franche, de juste s'assurer que vous partez du bon pied. Puis, ça va pas vous faire mal paraître. Au contraire, moi, si je serais un employeur, j'aimerais ça avoir un employé en avant de moi qui fait ses devoirs. C'est un signe d'intelligence. C'est un signe que la personne est responsable.
Ben oui.
Alors, n'hésitez pas à en parler et ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez du contrat qui est proposé.
Merci beaucoup, Philippe. Alors, on te laisse aller faire, là, ben, peut-être finir ta journée, faire un beau petit dodo ce soir et on se reparle, nous, la semaine prochaine.
Exactement. Merci. Au revoir.
Salut.